Voilà, j'espère que vous avez encore la capacité de rester à votre place et d'écouter. Malheureusement, je n'ai pas pu vous présenter ce matin un petit PowerPoint, mais vous rappeler, cette année, nous avons décidé, par la grâce de Dieu, nous prions que le Seigneur dirige l'Église, et ensemble, nous avons décidé d'avoir pour thème pour l'Église cette année, notamment au travers des groupes de maison, connaître Jésus-Christ et le faire connaître. Quel beau thème, n'est-ce pas? Je pense que ça ne peut faire que l'unanimité. Comme il y a 21 chapitres et que nous avons, je le répète, que 16 rencontres, il y aura parfois des dimanches où nous aurons l'occasion de prêcher un chapitre entier de l'Évangile de Jean. On regardera dans deux dimanches ce qu'on appelle le prologue de l'Évangile, du verset 1 à 18, et ensuite, et les deux dimanches, donc aujourd'hui et dimanche prochain, on va regarder ce qui caractérise l'Évangile de Jean par rapport aux autres évangiles. En fait, il y a deux choses qui caractérisent l'Évangile de Jean, c'est la série des « Je suis » prononcés par Jésus-Christ, et aussi le récit des sept signes ou miracles qui ont pour but de proclamer que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, qui ont pour but de prouver que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, cet été, j'ai lu l'évangile de Jean, puisque je savais qu'on avait choisi cet évangile pour la rentrée, et j'ai essayé de mémoriser tout ce qu'il y a dans chaque chapitre. Au moins, vous pouvez commencer à lire une fois, deux fois, trois fois, puis d'essayer de mémoriser, de donner un titre à chaque chapitre. Et vous avez une feuille au fond de la salle où il y a notamment écrit cet exercice de donner un titre à chaque chapitre. Et puis d'essayer de voir l'ensemble de l'évangile et d'avoir en mémoire pour chaque chapitre le contenu de chaque chapitre. En fait, le but de l'évangile de Jean, ça se trouve en Jean 20:31, et c'est écrit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » En fait, ce qui m'a fait beaucoup réfléchir, j'étais vraiment béni de le relire et étudier et méditer l'évangile de Jean durant mes vacances, ce qui m'a été une bénédiction, c'est de voir qu'en fait, le fil conducteur de l'évangile, c'est du fait que les lecteurs ou les auditeurs puissent croire. Alors notre frère Étienne nous a souligné plusieurs fois ce matin le mot « lumière ». Alors c'est un des mots clés de l'évangile de Jean. Il y a aussi « la vie », il y a aussi le mot « témoin », »,« témoignage ». Mais le mot clé de l'évangile de Jean, c'est un verbe. En grec, « pistouéo », »,« croire ». Ce n'est pas « pistis », la foi, c'est jamais utilisé le mot « foi » dans l'évangile de Jean. Mais c'est le mot « croire », le verbe. Et c'est à l'indicatif présent ou dans une forme de participale, parce qu'en fait, le but de l'évangile de Jean, c'est de nous faire croire, mais que notre foi soit active. Une fois qu'on connaît Jésus-Christ, la foi s'enclenche et reste pas passive. C'est une foi dynamique, parce que connaissant Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc ce mot-clé, c'est le verbe « croire ». Et cette année, que Dieu nous fasse la grâce de croire et de croître dans notre foi. Par exemple, en Jean 14:1, Jésus a dit que votre cœur, alors je n'ai pas relevé, d'ailleurs ça pourrait être vraiment le sujet d'une prédication, lancer un défi, la foi ou croire au travers de l'évangile de Jean. Mais en Jean 14:1, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. On ne peut pas croire en Dieu sans croire en Jésus-Christ. On ne peut pas être sauvé simplement en croire en Dieu. La Bible dit que même les démons croient en Dieu. Mais c'est en Jésus-Christ qu'on est sauvé. Puis il dit à Thomas, Jean 20, 27, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Jean 16, 30, « Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » L'évangéliste Jean a un fardeau sur son cœur. C'est un homme extraordinaire, Jean. Si on lit les écrits de Jean, on voit, il se cache toujours, mais sa personnalité est extraordinaire. Discrète, mais tellement pleine de lumière, de vérité et d'amour, hein, l'évangéliste Jean. Et son désir, son fardeau, c'est que les hommes croient. Parce que Jésus-Christ mérite tout l'objet de notre foi, de notre confiance. Nous parlerons à une autre occasion du plan de l'Évangile. On va essayer ce matin, on va voir si on y arrive, d'esquisser les « je suis » de l'Évangile de Jean comme étant la partie de notre thème de cette année, connaître Jésus-Christ. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, nous regarderons les 7 signes qui doivent amener les gens à croire aussi à Jésus-Christ, donc à se confier en lui. Et durant notre Samuel, notre frère l'a rappelé, justement, pendant cette campagne d'évangélisation, nous avons proclamé l'Évangile sous différentes formes. Alors, il y a eu des concerts gospel, il y a eu toutes sortes de manifestations dans la rue, du théâtre, de la danse, des chants, les clubs d'enfants. C'est merveilleux cela. On a utilisé du matériel agapé, j'ai oublié le nom, les photos là. Solarium. Ah oui, sol l'âme, d'accord. Alors c'est pour ça que je le retiens mal. Solarium, tu ne peux pas dire solarium, parce que c'est un solarium. Solarium. Alors, je ne sais pas, le sondage de l'âme et de savoir ce que les gens pensent et comment ils réagissent. Voyez-vous, il y a différentes façons de proclamer l'Évangile. Mais l'évangéliste Jean, il utilise des signes. Il y a 9 miracles dans l'Évangile de Jean, mais il y a 7 signes particuliers. Et en fait, il y a 42 miracles dans les 4 évangiles qui sont décrits. Alors bien sûr, j'en dis, mais tout ce que Jésus a fait, il n'y aurait aucun livre qui pourrait le contenir. Ça n'a pas été exhaustif, ça a été choisi de façon particulière. Et c'est ce qu'on regardera. J'ai une question à vous poser ce matin. Est-ce que vous voulez vraiment connaître Jésus-Christ? Amen. D'ailleurs, notre cher frère Nathanaël est là ce matin, celui qui dit « Amen, oui ». Et pour leur mariage, j'ai cherché dans la pensée de Dieu, vous savez, c'est extraordinaire les mariages, il faut se préparer comme un culte, chercher la face de Dieu. Et alors, Nathanaël et Fanny m'ont souvent dit dans leur préparation de mariage, on veut vraiment centrer notre vie sur Dieu. Et alors, pour leur mariage, j'ai une méditation sur les « je suis » justement, mais appliquée au couple. Et cette semaine, je réfléchissais à ce premier dimanche de la rentrée, puis notre thème, et j'ai dit, mais c'est vrai finalement, pourquoi ne pas prêcher les « je suis » de l'Évangile de Jean? Mais ce ne sera pas le même message. D'accord. Alors, voulons-nous connaître Jésus-Christ? Et le faire connaître, certainement, mais le connaître profondément. Une façon qui nous est offerte cette année, c'est de regarder à qui, qu'est-ce qu'il a fait et comment se présente-t-il lui-même dans l'Évangile de Jean. Est-ce qu'on va aimer Jésus-Christ encore plus cette année? Est-ce qu'on va le connaître et donc s'humilier devant lui et le suivre et le chérir? Et que cette vie qui coule en nous cette année puisse attirer d'autres. C'est dans la mesure où on va connaître, et dans le mot connaître, dans le grec, il y a l'idée d'expérimenter. Ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance du cœur, de la vie, de l'esprit en nous. Est-ce que cette vie en nous va couler quand nous allons nous rapprocher de Jésus-Christ? Et comme Jean, l'apôtre Jean bien-aimé, se blottir contre son sein, nous allons avoir un cœur qui va palpiter un petit peu au cœur de Jésus. Et puis, naturellement, cette vie en coulant au travers de nous va donner soif aux autres de connaître Jésus-Christ. Notre défi, c'est de connaître Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes prêts, frères et sœurs, à vraiment chercher Dieu pour connaître Jésus-Christ de façon intime, personnelle, profonde et vivre pour lui? Prions s'il vous plaît. Notre Père, nous te demandons ce matin de nous visiter. Je te prie Père que ce message t'honore, te glorifie. Je te demande Père que tu visites nos cœurs, tu les rafraîchisses, que tu nous renouvelles. Et que de la même façon dont tu as renouvelé nos forces pendant les vacances, que tu renouvelles nos forces spirituelles et nous remplis du Saint-Esprit. Tu vois les défis que nous avons les uns et les autres pour cette année, Seigneur. Que ta présence nous comble de tes bienfaits en chacun de nous. Les étudiants face à leurs défis d'examen, d'études, le travail professionnel, les différents ministères, l'Église, que ce soit imprimé tout cela de ta présence, parce que nous proclamons que nous te connaissons. Et ce matin, nous nous humilions parce que nous voulons encore mieux te connaître. Connaître Jésus-Christ. Fais-le en nous, Seigneur, par ta grâce. Et nous t'en donnerons toute la gloire. Agis parmi nous, Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un connaît combien de fois Jésus-Christ a-t-il déclaré dans les évangiles « Je suis » ? Eh bien, je ne l'ai pas calculé. Donc, je n'ai pas la réponse. J'aurais pu le faire, j'ai commencé. Mais par contre, quand on regarde l'évangile de Jean, certainement, j'avais un diapo à vous présenter, là, il y a les sept « je suis ». Allons-y, de mémoire, on y va. Quels sont les sept « je suis » clés que l'on trouve dans l'évangile de Jean? Il y en a qui sourient, donc ça veut dire qu'ils ont déjà étudié un peu l'évangile de Jean. Quel est le premier que l'on trouve? Vous attendiez pas à une colle ce matin. Ça, c'est Jean 14, le chemin, la vérité, la vie. Jean 6, qu'est-ce qu'on trouve en Jean? On va le faire de façon chronologique, Jean 6. Bon, je vous le dis, allez. Le pain de vie. Vous ne voulez pas vous coller ce matin quand même. Mais lisez l'évangile de Jean, relisez-le, c'est extraordinaire. Jean 8, la lumière du monde. Jean 10, la porte des brebis. Jean 10, le bon berger. Jean 11, la résurrection et la vie. Jean 14, le chemin, la vérité et la vie. Jean 15, le vrai cep. Vous allez les retenir? C'est des passages clés. Je suis. Vous savez, quand quelqu'un se présente et puis je suis, je m'appelle, je suis. Sinon, il clarifie son identité. Le Seigneur Jésus, on veut le connaître, il faut savoir ce qu'il a dit. Il a dit « Je suis ». Alors, on connaît les sept « je suis ». Mais savez-vous quoi? J'en ai trouvé 16, moi, dans l'évangile de Jean. Je vous les donne. Il a dit d'abord « Je suis le Messie ». Puis il a dit aussi « Je suis le Fils de Dieu ». Il a dit « Je suis le Fils de Dieu, venu du Père ». Je suis venu du Père. Je suis dans le Père. Je suis sorti du Père. Je suis descendu du ciel. Et puis il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ego eimi, c'est très fort dans le grec ici. Moi, je suis. C'est les mêmes mots dans le grec que Jésus a prononcé que ce que Dieu a dit à Moïse. Quel est ton nom? Je suis. Exode 3, 14. C'est le même mot. C'est pour ça que les Juifs voulaient lapider. Quand Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis, moi je suis, c'est très fort dans l'original. Ça voulait dire, je suis éternel. Donc il est éternel. Il a dit aussi, je suis Jésus de Nazareth. Je suis le maître et seigneur. Et puis il a dit aussi, je suis le roi. Alors ce matin, on va esquisser quelques-uns de ces « je suis ». À un moment donné, en Jean 4, verset 26, Jésus a dit à la Samaritaine, « Je le suis, moi qui te parle. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? La Samaritaine avait en vision le fait qu'elle attendait, comme les Samaritains, un mélange de Juifs et de Païens, elle attendait le Messie, celui qui allait être loin, qui allait régner sur le royaume. C'était le Mashiach de l'Hébreu, de l'Ancien Testament, loin de Dieu, de la postérité de David, qui dans le grec, se nomme Christos, qui a donné le mot Christ. Jésus, sauveur, Christos, loin. Ce loin, c'est le Messie, celui qui avait le pouvoir de délivrer le peuple d'Israël et d'établir son royaume. J'aimerais vous poser une question toute simple. Est-ce que vraiment chacun de nous avons accepté le Jésus comme Messie? Celui qui a toute puissance, loin de Dieu, celui qui apporte la délivrance. Est-ce que vous êtes vraiment délivré de la puissance de vos péchés? Je suis le Messie. Connaître Jésus, c'est commencer par ce qu'il a dit, lui, en Jean 4. On va regarder de façon chronologique. Je suis le Messie. C'est très fort, cela. Ce qui m'a frappé en lisant l'évangile de Jean durant cet été, encore une fois, c'est la relation de Jésus avec le Père. Ça m'a bouleversé, encore une fois. Jésus a une relation en tant que Dieu fait homme avec Dieu le Père. Il a dit, je suis le Fils de Dieu. Et dans l'évangile de Jean, lorsque vous le lisez de façon globale, et vous avez toute l'historique et le fil conducteur et chronologique, on voit qu'il y a constamment une tension dans l'évangile de Jean. Jésus qui se révèle de plus en plus. Par exemple, Jésus qui dit, je suis la lumière du monde. Et dans le chapitre 8 et le chapitre 9, qu'est-ce qu'il fait? Il prouve ce qu'il est. Il guérit un aveugle né. Il provoque les Juifs. Il provoque les Juifs dans leur théologie ou théocratie judaïque, dans leur façon de penser et légalisme, où il n'y a plus Dieu. Il y a une tension permanente entre qui est Jésus et ce qu'il dit qu'il est et ce qu'il fait, et la religion établie, les Juifs, les pharisiens, qui manifestent souvent de l'incrédulité et plus tard, incrédulité qui va les amener à crucifier le Fils de Dieu. Et donc Jésus a voulu s'identifier au peuple juif. Il a dit, je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu. C'est très fort, je suis venu au nom de mon Père. Jésus n'est pas venu par lui-même. Et vous savez, nous en tant que croyants, quand nous témoignons, gardons-nous de venir de notre part, de nous-mêmes. Soyons assez humbles pour nous cacher, laisser vivre Christ en nous, pour que les gens voient qu'on vient, vous comprenez ce que je veux dire, qu'on vient de notre, c'est Dieu qui nous envoie. On a un message. Il a dit ceci, je suis dans le Père, mais si je l'ai fait, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez, reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. La souffrance de Christ, je dirais, dans l'évangile de Jean apparaît que malgré sa présentation, sa puissance de miracle, son enseignement, on ne le voit pas comme envoyé du Père. Et Jésus dit constamment dans l'évangile, je suis l'envoyé du Père. Croyez en moi parce que je suis l'envoyé du Père. Celui qui me connaît connaît le Père. Celui qui connaît le Père me connaît. Comment se fait-il que les gens religieux qui tous les Shabbats dans les synagogues lisaient les Écritures n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie? Quel aveuglement! Quel aveuglement! Ils n'ont pas reconnu que Jésus est issu du Père, qu'il est Dieu fait homme. Et c'est une quelque part une souffrance dans le Fils de ne pas être reconnu pour ce qu'il est vraiment, parce qu'il représente le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit l'évangéliste Jean. Je suis sorti du Père, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Constamment, il proclame qu'il est dans le Père. Et là, ça, c'est une leçon spirituelle à tirer. Est-ce que nous-mêmes, nous marchons dans la même relation intime avec Dieu le Père, comme Jésus-Christ sur cette terre avec Dieu le Père? Bien sûr, vous allez me dire, il était Dieu fait homme. Jésus-Christ, notre Seigneur, avait une relation parfaite avec Dieu le Père. Mais cela nous invite et nous lance le défi de constamment chercher la face de Dieu le Père pour être en relation avec lui. Il est descendu du ciel pour faire non ma volonté, la Bible dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que nous aussi, nous prenons le temps d'être dans la communion de Dieu le Père pour faire sa volonté? Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors ça a été une déclaration qui a mené les Juifs à vouloir le tuer, le lapider. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est la pierre à l'achoppement de ce monde. Jésus-Christ est Dieu. Il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un roi, même s'il est roi et prophète. Il est Dieu. C'est la pierre d'achoppement de ce monde. Parce que pour connaître Dieu, nous devons passer par Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme, Jésus-Christ éternel. Il a dit en Jean chapitre 6, je suis le pain de vie. Vous savez, à l'époque, dans le contexte où Jésus a dit ces paroles, l'aliment indispensable était le pain. Aujourd'hui, on va chez le boulanger, on a du pain, et même on gaspille parfois le pain. Mais à l'époque de Jésus, le pain, c'était l'aliment indispensable pour vivre. C'était l'aliment qui était là comme un don quelque part pour pouvoir se nourrir et vivre. Et nous sommes dans une certaine abondance, on ne comprend peut-être pas bien ce que Jésus a voulu dire. Je suis le pain de vie. De même que notre corps a besoin de pain pour se nourrir physiquement et continuer de vivre, notre âme spirituelle a besoin du pain de vie. Jésus-Christ a dit, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez de mon sang, vous n'aurez pas la vie. Mais dire ça à un juif, c'était criminel. Si vous ne mangez de ma chair littéralement, si vous ne mangez de ma viande dans l'original grec, il est écrit, si vous ne me mangez pas ma viande et mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie. Et vous savez que pour dire à un juif, mange de la viande avec du sang, c'est interdit par la loi. Donc le langage de Jésus est un langage spirituel, ce qui veut dire, je suis le pain de vie, d'ailleurs, qui est descendu du ciel, qui vient du Père, de même que vous avez connu la manne dans le désert. Peuple juif, sachez aujourd'hui que le vrai pain de vie, c'est moi. Je donne la vie éternelle. C'est une nourriture spirituelle. Et pour nous, les enfants de Dieu, nous devons nous nourrir de Christ. C'est pour ça que nous proclamons en souvenir par la table du Seigneur sa mort et sa résurrection et son retour. Parce que nous nous nourrissons de la croix, nous allons à la croix, là où sa chair a été crucifiée, son sang a été versé, afin de nous laisser briser par Christ. Nous avons tellement besoin, frères et sœurs, de constamment revenir à la croix, là où Jésus a manifesté son pardon, son amour, et là où il nous purifie par son sang. C'est à la croix que la vie commence, c'est à la croix, quand on s'humilie, que Dieu nous élève. Il n'y a pas de place pour l'orgueil dans la vie chrétienne, mais la place pour le chemin de l'humiliation. Quelqu'un a dit, l'humilité est le seul escalier d'honneur dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin de cette nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Une façon de connaître Christ, ça va être de nous nourrir de sa parole, durant, pas simplement cette année, mais toute notre vie, nous qui sommes des enfants de Dieu, en route pour le ciel. Mais sur cette terre, nous avons besoin de ce pain indispensable à notre vie spirituelle. Nous avons besoin de nous nourrir de sa présence, quitte parfois à aller au pied de la croix pour rester en communion avec le Seigneur, parce que nous avons un tel besoin d'être purifiés de nos péchés. Et la Bible dit d'ailleurs que nous avons besoin de nous laisser purifier, parce que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il est menteur. Et Jésus-Christ a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout péché. Non seulement ici, le sens de du mot, c'est chaque péché, mais de tout péché. Chaque péché et n'importe quel péché. Même le plus grand criminel peut être converti et sauvé par la grâce. Je me souviens un jour avoir lu l'histoire d'un homme qui avait tué, qui avait été condamné aux États-Unis, avec la chaise électrique, et qui s'est converti parce qu'il avait demandé un signe à Dieu. Et réveille-moi à telle heure de la nuit si vraiment tu existes. Il y avait un pasteur, un aumônier qui allait l'évangéliser, mais il ne voulait rien savoir. Mais il a dit, bon, écoute, Dieu, si tu existes, réveille-moi à telle heure. Je ne dis pas qu'il faut faire tout le temps comme ça, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a réveillé. Et cet homme-là, il a été gracié, puis les bourreaux qui l'ont amené à la chaise électrique tremblaient plus que celui qui allait mourir, parce qu'il avait découvert la paix de Dieu. Tout péché. C'est extraordinaire, ça. Ça ne veut pas dire que c'est un prétexte ensuite de vivre selon la chair et de vivre dans ses péchés. Une fois qu'on est converti, on est purifié par le sang de l'agneau. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Alors, vous comprenez que ce ne sont que quelques traits de pinceau sur un tableau, n'est-ce pas, des esquisses qui ont besoin d'être tellement en plus élaborées. C'est une des paroles extraordinaires. C'est un sujet qui me passionne, d'étudier ce que dit la Bible au sujet de la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, ça veut dire qu'il m'obéit. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est extraordinaire parce que Jésus, dans ce moment-là, est dans le temple. C'est la fête des tabernacles. Et le temple est éclairé avec des lampes, n'est-ce pas, qui brûlent dans le temple. En souvenir de quoi? De la Shekinah, de la nuée qui éclairait le peuple d'Israël de nuit. Vous vous souvenez, cette lumière, la Shekinah de Dieu, la nuée de Dieu qui était sur le tabernacle et qui de nuit donnait la lumière pour diriger le peuple d'Israël. Et Jésus proclame dans ce temps de fête, de souvenir de la fête des tabernacles, « Je suis la lumière du monde ». Vous vous rendez compte? Un message si extraordinaire. Alors ça veut dire que si nous marchons dans sa lumière, eh bien, nous allons découvrir qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes dans nos vies. S'il dit qu'il est la lumière du monde et qu'on le suit, on va découvrir dans nos vies des ténèbres. Et la Bible dit, par ta lumière, je vois ta lumière. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons une partie de ténèbres dans notre vie. On n'est pas parfait. Enfin, presque, non, on n'est pas parfait. Mais par contre, le Seigneur, lui, il sait sonder nos cœurs. Quand on est opéré aujourd'hui ou qu'on est visité par les médecins, ils ont toutes sortes de façons extraordinaires d'aller dans le corps, n'est-ce pas? Et puis, on vous auscute, ah oui, je vois. Enfin, ils voient, je ne sais pas comment ils voient, mais c'est tout petit, ça se balade dans le corps. Et puis, mais Dieu a une sonde aussi. Sa parole et sa présence, le Saint-Esprit qui est lumière. On ne doit pas attrister le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit à nous, nous éclaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il éclaire? Il éclaire ce qui a besoin d'être éclairé. Ça veut dire que dans ma vie, il y a des choses qui ne se plaisent pas à Dieu. En pensée, en action, en parole. Et Dieu met la lumière. Non seulement il met la lumière dans mon cœur pour que je me redresse, que je me pardonne à Dieu, pour que je marche avec lui, mais il met la lumière aussi parfois au travers des autres, parce que je vis en famille, la famille de Dieu, l'Église, et puis peut-être dans un foyer. Et puis là, bah, tout d'un coup, il y a des choses que Dieu met en lumière, qui ont besoin d'être purifiées, qui ont besoin d'être pardonnées. Et comment on fait cela? Mais c'est par l'humilité. Le plus grand problème du croyant, c'est qu'il n'est pas assez humble pour dépendre de Dieu. Je vous lis ce que dit la Bible. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Bien sûr que nous avons besoin de sa lumière et nous avons besoin de sa lumière entre nous. Et nous avons besoin de sa lumière en chacun de nous pour progresser. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marcher comme des enfants de lumière, ça nous amène à la sainteté. Ça nous amène à la purification. Un enfant de lumière est quelqu'un qui est éclairé par Dieu et qui est transformé. Comme j'ai dit au mariage Nathanaël et Fanny, on ne peut pas transformer l'autre. On ne peut pas se transformer. Et la lumière le fait. Et Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, l'accomplit dans notre vie. C'est le programme de Dieu. La constante solaire. Au-dessus des nuages, il y a une constante solaire. C'est magnifique. Vous êtes en avion, vous êtes en-dessus des nuages, et il fait toujours beau. Si vous êtes en dessous, ben, des fois, il y a tellement de nuages qu'on ne voit presque plus le soleil. Pourtant, le soleil reste le même. La constante solaire. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On a besoin de lumière, rassurons-nous. Il ne faiblit pas. Sa lumière est constante. Et elle est là pour pénétrer nos cœurs. Elle est là à tel point que même Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire pour nous, ses enfants. Et c'est un privilège. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Après nous avoir dit, je suis la lumière du monde, il a dit, vous êtes la lumière du monde, le sel, la terre. Le Seigneur brille en nous. Et parce qu'il brille au travers de nous, on éclaire les autres. On donne le goût aux autres de connaître ce que nous avons, parce que nous savons où nous allons. Nous avons la lumière de Christ. Le monde ne sait pas où il va. Il marche à tâtons, dans les passions de ce monde, dans l'égarement de ce monde. Mais nous savons où nous allons. Et surtout, nous savons en qui nous sommes. Enfin, le Seigneur Jésus a dit, je suis la porte des brebis, le bon berger. Et là, je vais vous esquisser, si vous me permettez, en quelques minutes, parce que c'est un peu délicat à comprendre, mais c'est une clé qui est nécessaire pour ouvrir un petit peu la compréhension de la différence entre la porte et les brebis. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, je crois que c'est 6 ou 7 premiers, 6 premiers versets, il y a une première parabole du berger. Et Jésus, là, ne dit pas « je suis le berger ». Il y a une parabole du berger. Je vais vous la résumer dans un instant. Ensuite, il y a la parabole de la porte. Et Jésus dit, là, je suis la porte des brebis, celui qui entre en moi sera sauvé. Et la troisième parabole, c'est Jésus qui dit, je suis le bon berger. Pour mettre ça ensemble, c'est peut-être pas toujours évident. Alors, la première illustration, qui est le but de la première parabole, c'est de montrer que Jésus voit un enclos, il voit des brebis, les brebis d'Israël, dans un enclos qui est fermé, et qui est quelque part verrouillé parce que c'est le pharisianisme, la culture de l'époque religieuse, qui enferme ces brebis qui n'ont pas de berger. Parce que le chapitre 10, il y a un lien avec le chapitre 9, où le chapitre 9, c'est la guérison de l'aveugle-né. Et chose extraordinaire, au lieu de se réjouir, les gens religieux accusent l'aveugle-né. Ne reconnaissent pas en Jésus le Fils de Dieu guérisseur. Voyez-vous, la religion bloque la vie. C'est terrible cela. Et au nom de Dieu, il y a des gens qui bloquent la vraie vie. Alors, beaucoup de similitudes avec certaines religions de ce monde aujourd'hui, qui pourtant proclament Dieu. Et Jésus vient à la porte. Et il dit, voilà, j'appelle mes brebis. Et comme Jean-Baptiste, qui peut illustrer la porte là, a fait un travail précurseur de préparer les cœurs, quand il appelle les brebis d'Israël à venir vers lui, le vrai berger, les brebis entendent sa voix. Elles sont comme attirées par le vrai berger et elles sortent de l'enclos. Et là, Jésus devient la porte des brebis. Dans quel sens? Il prend son troupeau qui est sorti de cet enclos, de la fausse religion. Il les emmène dans des verts pâturages et la Bible dit qu'il leur donne la vie en abondance. Des pâturages que ces brebis avaient besoin de goûter, mais prisonnières dans la religion, elles ne goûtaient pas une vraie vie de communion intime avec un berger qui vraiment prenait soin d'eux, qui donnait la sécurité et la bonne nourriture. Alors Jésus crée maintenant un autre enclos qui est la bergerie, on va dire l'église. Et là, dans cette bergerie, les brebis vont et viennent et passent par la porte qui est Jésus-Christ. C'est le royaume de Dieu. C'est pour ça que si on ne passe pas par Jésus-Christ, on ne peut pas être sauvé. C'est la clé du royaume de Dieu. Mais les brebis ont à la fois la sécurité en entrant dans cette nouvelle bergerie, nouvel enclos. Elles peuvent en sortir. Ce n'est pas qu'on peut entrer et sortir du salut. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais on entre dans la bergerie qui représente la sécurité et on a toute liberté d'en sortir pour jouir du pâturage que Christ a pour nous. Parce que l'aveugle-né, il a été sauvé, mais il devait sortir de cet enclos religieux et goûter un nouveau pâturage, goûter une nouvelle liberté que les pharisiens ne lui donnaient pas. Et puis il devient le bon berger. Non seulement il appelle les brebis, ensuite il paie ses brebis, mais là maintenant il dit « je suis le bon berger », c'est une troisième vérité pour souligner l'importance que Jésus révèle son cœur d'amour. Maintenant il établit une relation d'amour avec ses brebis. Êtes-vous certain d'être passé par la porte qui est Jésus-Christ, la porte du royaume de Dieu, pour avoir l'assurance de la vie éternelle, le pardon des péchés? Parce qu'il n'y a point d'autre salut qu'en Jésus-Christ. Il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Il y a un seul médiateur. Cela est agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, mais il y a un seul médiateur, Jésus-Christ homme, qui a été donné. Êtes-vous passé par Jésus-Christ? Puis connaissez-vous, si vous êtes un enfant de Dieu, la joie d'entrer, de sortir dans la sécurité du Seigneur et de jouir de cette sécurité, de cette liberté? C'est lui la porte. Nous avons un accès auprès de Dieu le Père, constamment. Quelle grâce d'être en communion avec Dieu par Jésus-Christ. Il est la porte. Vous ne savez pas où aller, vous êtes dans une impasse, allez à la porte, elle va s'ouvrir, parce que Jésus est la porte. Il est le bon berger. Non seulement ses brebis entendent sa voix, mais il établit une relation d'amour, une relation extraordinaire avec ses brebis. C'est une personne, je suis la porte, je, c'est une personne. N'oublions pas, ce n'est pas une église, ce n'est pas un système, c'est une personne. Nous nous rassemblons ici parce que nous connaissons une personne qui est Jésus-Christ. Et c'est au temps présent, je suis, ce n'est pas j'étais ou je serai, c'est je suis. Jésus est vivant, parce que ressuscité, il est celui qui peut entrer en communion avec nous. Il est la porte, il est la seule porte par laquelle on puisse passer pour entrer dans le royaume de Dieu. Il est le bon berger. Et juste en résumé du psaume 23, qu'est-ce qu'il nous dit le psaume 23? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est celui qui pourvoit nos besoins physiques, matériels, et spirituel. Il est celui qui apaise, il est celui qui protège, qui restaure, qui apporte le repos, qui dirige, qui remplit nos coupes de joie et de bonheur. C'est ça la clé du succès de la vie chrétienne. Ce n'est pas peut-être l'apparence de certaines choses, c'est la communion intime avec Jésus-Christ. C'est ça la vraie clé de la vie chrétienne. Cultivez, prenez le temps de cultiver, prenons le temps de cultiver cette relation intime avec Jésus-Christ. Il est le bon berger. Jésus-Christ a dit aussi, je suis la résurrection et la vie. Ces forces-là, quand il a dit à Abraham, qui était mort depuis 3 jours, n'est-ce pas, enseveli, et dont le corps commençait à sentir la pourriture, il s'est mis devant la porte, ce n'est pas une porte, c'est une grande pierre qu'on avait mis devant le sépulcre de Lazare. Il a dit, Lazare, sors! Et Lazare est sorti. C'est la puissance de la vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Il est celui qui a la puissance sur la vie physique. J'allais dire, vous êtes malade, mais croyez en Jésus-Christ, qui a la puissance de la vie. Bien sûr que c'est lui qui reste souverain. Il a la puissance de la vie parce qu'on meurt tous. Mais Christ est la garantie de la résurrection de tous les morts parce qu'il est ressuscité. Il y aura 2 résurrections, la résurrection des justes et des injustes, la résurrection des justes qui amène à la vie éternelle, la résurrection des justes qui amène à la résurrection du corps, parce que le mot résurrection dans le Nouveau Testament est essentiellement lié au corps. Bien sûr, nous sommes assis dans les lieux célestes, ressuscités avec Christ, ça c'est spirituel, mais essentiellement le mot est utilisé dans le sens de la résurrection du corps. Vous devez croire en Jésus-Christ qui a toute la puissance de vie. Il peut ressusciter tout ce qui est mort dans notre vie, tout ce qui est charnel, tout ce qui a besoin d'être là, de mourir réellement, parce que le principe de la vie spirituelle, c'est la mort. Mais Jésus est plein de vie pour chacun de nous. Il est celui qui nous apporte la vie. Et ça fait penser que le chrétien, en connaissant Jésus-Christ, il vit pour l'éternité, il ne vit plus pour lui-même. Parce qu'il sait que ressuscité, il va vivre dans l'éternité pleine d'espérance sur cette terre. Il va vivre dans l'éternité avec Christ, parce qu'il croit que Jésus-Christ va le ressusciter. Si vous lisez 1 Corinthiens 15, c'est un des beaux passages extraordinaires de la Bible qui montre le monde de la résurrection et du corps et comment Dieu va de ses cendres, n'est-ce pas, ressusciter un corps. Dans un corps glorieux, nous les enfants de Dieu et les infirmes, les malades vont être dans un corps extraordinaire nous aussi et on sera transformés à la rencontre du Seigneur, nous dit la Bible. Jésus a dit aussi, je suis le Maître et Seigneur. Vous m'appelez Maître et Seigneur, vous dites bien car je le suis. Dans quelles circonstances? C'était les circonstances où Jésus lavait les pieds des disciples en Jean chapitre 13. Comment ça Pierre? Tu me laves les pieds Jésus? Non, laisse-moi. Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Qu'est-ce que Pierre devait apprendre? L'humilité. Et deuxièmement, apprendre à prendre soin des autres. Un jour, il va être pasteur, Pierre. À paître les brebis, à prendre soin des autres. La Bible nous appelle à prendre soin les uns des autres. Voilà. On ne peut pas connaître Jésus-Christ sans connaître qu'il est serviteur et sans devenir soi-même un serviteur. Vous voulez mieux connaître Jésus-Christ cette année? Apprenez à servir Jésus-Christ. Ayez la motivation de Jésus-Christ, son amour, sa paix, son désir, le désir de le glorifier lui, de lui donner toute la gloire. Connaître Jésus-Christ, c'est le servir. Vous voulez servir Jésus-Christ? Plongez-vous dans son cœur et il ne vous laissera pas inutile et vain dans votre travail parce qu'il a un travail pour vous. Parce que c'est dans son cœur. Il s'est humilié pour nettoyer les pieds des disciples. Il s'est abaissé lui-même pour montrer par cet exemple parfait d'humilité qu'on doit prendre les soins les uns des autres. On s'en vient. Mais si vous me permettez, je voudrais terminer. Vous aimez Jésus-Christ? C'est de toute beauté cela, ce qu'il a dit. Il a dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai toujours employé ce verset pour prêcher l'évangile. Jésus-Christ, le seul chemin, la vérité. Il est le seul chemin parce qu'il est la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est par Jésus-Christ qu'on passe pour être sauvé. Ça, c'est le salut. C'est le chemin du salut. On est d'accord parce que Thomas était inquiet. Hein? Et Jésus-Christ, que votre cœur ne se trouble point. J'ai préparé une place pour vous. Voici, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais c'est la même chose pour nous, les enfants de Dieu. Vous voulez avoir cette relation intime avec Dieu le Père? Jésus est le chemin. Le chemin de la vérité, le chemin de la sainteté, le chemin de l'amour, le chemin de sa volonté. Vous voulez connaître Dieu le Père, passer par Jésus-Christ qui lui nous révèle le chemin. Il ne nous abandonnera pas. La Bible dit qu'il est notre guide jusqu'à la mort. C'est lui qui peut nous éclairer, nous montrer le chemin à suivre, de sa volonté, des choix importants à faire dans la vie. C'est lui qui a le chemin, qui prépare pour nous le chemin des bonnes œuvres préparées d'avance. Finalement, ne croyez-vous pas que souvent on s'inquiète pour rien? C'est Jésus qui nous dirige. Il est le chemin, la vérité, toute la vérité. Cela veut dire aussi dans nos vies, entre chrétiens, être prêt à vivre en transparence de vie, en toute franchise. Des fois, c'est difficile d'être transparent en bien ou parfois en mal. Mais ça fait partie de la vie chrétienne, d'être transparent, d'être soi-même devant Dieu, devant les hommes, avec sagesse, certes. Mais Dieu nous demande de vivre dans la vérité et surtout de nous appliquer à attacher nos cœurs à la vérité qui est la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ a dit « Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta parole est la vérité et la vie, la vie. » Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix et la joie. Vous n'avez pas envie de fréquenter des chrétiens qui sont remplis d'amour, de paix et de joie. C'est difficile de fréquenter des frères et des sœurs qui sont remplis d'amour, de paix, de joie, de patience. C'est difficile de vivre avec des gens comme ça. Oh non, attendez, c'est l'oasis sur la terre. Hein? C'est magnifique ça, de vivre ça dans nos foyers, dans la famille de Christ. Le monde ne connaît pas ça. C'est pour ça que Jésus a dit, voyez, c'est à ce signe que vous le connaîtrez. Voyez comme il s'aime. Si on suit le Seigneur dans ce chemin-là et on porte la vie en soi, alors l'Église est un oasis. Enfin, le Seigneur Jésus a dit « Je suis le vrai cep ». Quel est le contexte de ce chapitre 15? Jésus a pris la table du Seigneur, à la table, la dernière table du Seigneur. Judas est parti, le trahir. Et Jésus est en train de marcher vers le jardin de Gethsémané. Il sait très bien qu'il va être arrêté. Et sur le chemin, il regarde une vigne. Et là, il dit, voilà, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Pourquoi il a dit, je suis le vrai cep? Parce qu'il semble qu'il n'y a pas une vraie vigne. Ben oui, c'est ça. Israël doit maintenant passer du judaïsme, l'ancienne alliance, ou la vraie ancienne alliance, on va dire, à la nouvelle alliance, et maintenant regarder à Jésus-Christ, passer de l'ancienne à la nouvelle alliance. Il faut que maintenant le peuple d'Israël passe de cette vigne qui a été pas mal abandonnée par Dieu, parce qu'en fait elle s'est laissée à l'abandon, vu qu'elle s'est détournée de Dieu, à se tourner vers Jésus, le vrai cep. Jésus est le vrai cep, son père est le vigneron. Nous sommes maintenant devenus la vigne du Seigneur. Et la Bible dit, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si nous lisons attentivement Jean chapitre 15, quelqu'un qui est greffé sur Jésus-Christ, on va dire, et qui porte du fruit, parce que la greffe a eu du succès, à ce moment-là, il porte du fruit. La Bible dit, après qu'il porte encore plus de fruits, puis plus tard dans Jean 15, il dit, il porte beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous voulez aimer le Père, avoir cette même relation que Jésus avec le Père, chercher à glorifier Dieu le Père. Comment glorifier Dieu le Père? Portons du fruit. Portons du fruit, encore plus de fruits, et beaucoup de fruits. Le fruit de la sainteté, le fruit de la grâce de Dieu, le fruit de l'Ève qui confesse son nom, le fruit de l'esprit dans nos vies. Et finalement, il est dit, je vous établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit qui demeure. Ça, c'est le fruit des âmes. Le sage s'empare des âmes. Ça, c'est le fruit de l'évangélisation, du témoignage, des âmes éternelles qu'on amène au Seigneur par la grâce de Dieu. Quel privilège. Et qui entre dans le royaume de Dieu. Dieu veut que nous portions du fruit, mais comment? En restant attachés à lui, le plus possible pour que la sève coule. Le sarment qui est retranché, c'est un sarment qui n'a pas porté du fruit. C'est une greffe qui n'a pas marché. Et donc, le sarment est brûlé, il est mis de côté. Ça symbolise Judas. Judas était avec Jésus, ses disciples, mais il n'a pas porté le fruit qui était attendu. Nous portons ce fruit-là et Jésus nous appelle maintenant ses amis. Ses amis. On n'est plus sous une relation craintive, mais une relation amicale, convivial, d'intimité avec Dieu le Père, Dieu le Fils. Cette relation, cette communion est tellement un privilège. Comment pourrions-nous la gâcher par notre manque de soumission à Dieu? Connaissons Jésus-Christ. Laissons-le vivre au travers de nous. Et finalement, je terminerai avec le dernier « Je suis », qui n'est pas un des sept, mais vous avez compris. Et c'est une dernière phase de la vie de Jésus-Christ. Puis là, tu lui dis « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » À Pilate, il a dit « Je suis roi. » Est-ce que Christ est roi dans votre vie? Ah, certainement, il était le roi d'Israël, le roi des Juifs, mais il est celui qui veut régner dans notre vie. Il veut être celui, s'il y a un roi, c'est qu'il y a un royaume. Il veut être celui qui vous amène dans son royaume. Il est la porte par laquelle on entre et il veut que vous régniez dans son royaume avec lui, jusqu'à partager toutes les récompenses et son règne dans l'éternité. C'est extraordinaire. Le royaume de Dieu commence sur terre et se prolonge dans l'éternité. Nous allons régner avec Christ d'éternité en été pour toujours. La question est la suivante. Est-ce que nous laissons Christ régner dans notre vie? Est-ce qu'il est vraiment roi? Pensez à tous les casiers de votre vie, les tiroirs peut-être cachés ou ouverts, je ne sais pas, et donnez-lui toutes les clés pour qu'il entre et regarde vraiment. Est-ce qu'il est vraiment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Comme a dit Spurgeon, qui est bien connu, cette citation, roi de tout ou pas roi du tout? Seigneur de tout ou pas seigneur du tout? Voilà. L'évangile de Jean, en fait, à chaque fois que Jésus se présente, il provoque une réaction. Ou une réaction de foi positive, et les personnes croient en lui comme l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, tous ses disciples, ou une réaction négative d'incrédulité. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Les Juifs ont voulu lapider Jésus quand il a dit avant qu'Abraham fût « Je suis ». Les Juifs de l'époque, certains, hein, mais c'était la majorité, n'ont pas reconnu en Jésus le Messie. Et vous? Et nous? Est-ce que nous l'avons reconnu comme celui qui est le Messie, Fils de Dieu? Il y a certaines personnes, pour reconnaître que Jésus-Christ est Dieu, qui ont beaucoup de difficultés. L'incrédulité, le faux enseignement. Et cela pour conséquence ceci. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, on a regardé tous les « je suis » là, ce matin. Vous mourrez dans vos péchés. Ne pas croire, qui est le leitmotiv de l'évangile de Jean dans ses écrits, c'est se perdre, c'est mourir dans ses péchés, c'est solennel. Celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je vous en supplie, comme disait l'apôtre Paul, soyez réconciliés avec Dieu. Et le médiateur, c'est Jésus-Christ. Ou alors une réaction de foi, celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Quand vous avez eu la joie d'être sauvé, vous n'avez pas, sauté de joie ou chanté un cantique nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cœur? C'est ça la joie du salut, avoir l'assurance de la vie éternelle. Et puis de savoir qu'une fois que Dieu nous a sauvés, il ne nous a pas abandonnés. Il reste celui qui est le chemin, la vérité, la vie, qui est la porte, qui est le bon berger, qui est le vrai cep, etc. Le pain de vie dont nous avons besoin. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pour connaître Jésus-Christ, on doit le suivre pour marcher dans la lumière. J'aimerais vous poser cette dernière question. On va baisser la tête, fermer nos yeux. Et vous allez répondre devant Dieu à cette question. Pas moi, pas à moi. D'accord? On se comprend? Dans votre cœur. Voulez-vous marcher dans la lumière? Jésus-Christ lui-même a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Voulez-vous suivre Jésus-Christ? À l'instant, dans votre cœur. Donnez-lui une réponse, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a trop de choses qui sont dites, mais qui ne sont pas appliquées dans nos vies. Maintenant, à l'instant, là où vous êtes, Dites-le au Seigneur. Seigneur, je t'accepte comme la lumière de ma vie. Peut-être vous ne l'avez jamais accepté encore. Vous n'avez pas l'assurance du salut. Dites au Seigneur, je te reçois comme mon sauveur. Entre en moi, sauve-moi. Dites-le lui à l'instant. C'est entre vous et le Seigneur. Je t'accepte, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Dites-le lui simplement. Il a dit qu'il ne mettrait pas dehors celui qui viendrait à lui. Et pour nous qui connaissons le Seigneur, disons-lui au Seigneur que nous l'aimons, nous voulons encore mieux le connaître. Et nous nous engageons à le suivre, à la lumière, à sa lumière. C'est entre vous, c'est en chacun de nous et devant Dieu seul, mais Dieu a entendu. Et qu'on ait la sincérité de votre cœur, de mon cœur. Prions. Seigneur éternel, ce n'est qu'une esquisse ce matin de ce que nous avons besoin d'apprendre, de connaître Jésus-Christ. Et tu prends plaisir, Dieu le Père, à ce que nous connaissions le Fils, parce que connaître le Fils, c'est te connaître. Humblement, nous te demandons de nous aider à te connaître, Seigneur. Aide-nous à nous blottir sur ton sein comme l'apôtre Jean, à demeurer en toi et à t'aimer par-dessus tout. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Amen.